les hiérarchies spirituelles et leurs reflets dans le monde physique. Sixième conférence, au soir du 14 avril 1909. Les réalités d'ordre cosmique résultent, nous l'avons vu, de la vie spirituelle d'entités supérieures à l'être humain. C'est le cas en particulier pour l'événement décrit à la fin de la dernière conférence, le combat dans le ciel, qui a laissé sur le champ de bataille, entre Jupiter et Mars, tant de cadavres, que sont les planétoïdes, que les astronomes en découvrent toujours un nombre de plus en plus grand. Cet événement est de la plus haute importance. Nous aurons à y revenir et nous en verrons le reflet dans certains événements terrestres. Reflet qui se retrouve en particulier au début de la Bhagavad Gita. Aujourd'hui, l'évocation des entités spirituelles se poursuivra et nous verrons, brièvement d'abord, celles laissées de côté, celles qui touchent de plus près à l'homme et qu'on appelle dans l'ésotérisme chrétien anges, archanges et principautés, ou principes primordiaux, forces des origines. Dans la littérature anthroposophique, les archanges sont aussi appelés esprits du feu, et les principautés, esprits de la personnalité. Ces entités relient pour ainsi dire l'homme à celles dont nous avons dit dans la dernière conférence qu'elles étendent leur influence jusqu'à Jupiter, Mars, etc., et sont naturellement dans un rapport plus intime avec l'être humain sur Terre. Il s'agit tout d'abord des anges ou angeloi. Ceux-ci ont passé par leur stade humain pendant l'ancienne évolution lunaire et sont, au fond, parvenus actuellement au niveau que l'homme doit atteindre sur la future Jupiter. Ils sont donc d'un degré au-dessus de l'homme. Ce qu'est en réalité la mission de ces entités spirituelles, nous en aurons une idée si nous considérons la manière dont l'homme se développe sur la Terre. L'homme se développe en passant d'incarnation en incarnation. Cette sorte d'évolution remonte à travers toute l'ère atlantéenne jusqu'à l'ère lémurienne. Elle a commencé en réalité pendant l'époque la plus ancienne de cette dernière ère et se prolongera à travers les incarnations pendant longtemps encore, jusqu'au moment où, vers la fin de l'évolution terrestre, l'humanité connaîtra d'autres formes de développement. Vous savez que c'est l'individualité, la véritable essence éternelle de l'être humain, qui passe d'incarnation en incarnation. Mais vous savez aussi que la très grande majorité de nos contemporains n'a aucune conscience d'avoir vécu une vie antérieure, ne peut pas se souvenir d'avoir vécu certains événements dans les incarnations passées. Seuls ceux qui se sont élevés jusqu'à un certain niveau de clairvoyance peuvent plonger le regard dans leur vie antérieure. Quel lien y aurait-il entre les incarnations terrestres d'un homme qui ne se souvient pas de ses vies antérieures, s'il n'y avait pas des entités qui relient en quelque sorte ces incarnations, les unes aux autres, qui veillent à la continuité de son développement. Il y a en effet pour chaque être humain un être spirituel qui, du fait qu'il se trouve à un niveau supérieur à celui de l'homme, conduit l'individualité d'une incarnation à la suivante. Il ne s'agit pas des entités qui règlent le karma, remarquez-le bien. Nous reparlerons de ces dernières. Il s'agit simplement d'entités vigilantes qui conservent, pour ainsi dire, le souvenir d'une incarnation jusqu'à la suivante, tant que l'homme ne peut pas le faire lui-même. Ces entités, ce sont les anges. On peut dire que dans chacune de ces incarnations, l'être humain est une personne, mais que sur lui veille une entité dont la conscience passe de l'une à l'autre de ses incarnations. C'est cela qui fait qu'à certains degrés inférieurs de l'initiation, l'homme, bien qu'il ne sache encore rien de ses incarnations antérieures, acquiert cependant la possibilité d'interroger son ange. La chose est tout à fait possible. Les êtres qui, en tant qu'anges, sont supérieurs à l'homme, d'un degré, doivent donc veiller sur le fil qui, à travers toute l'humanité, passe pour chaque individu d'incarnation en incarnation. Élevons-nous maintenant jusqu'au groupe suivant, celui des archanges ou esprits du feu. Ceux-ci ne s'occupent pas de l'individu, leur mission est plus vaste. Ils assurent l'harmonie entre la vie des individus et celle des groupements humains, tels que les peuples, les races, etc. Pendant l'évolution de notre Terre, les archanges ont pour tâche d'établir en quelque sorte des rapports entre les âmes individuelles et ce que nous appelons les âmes des peuples ou des races. Car pour celui qui accède à la connaissance spirituelle, les âmes des peuples ou des races sont tout autre chose que pour ceux qui vivent dans l'abstraction de la science ou de la culture actuelle en général. Sur un territoire donné, la France, l'Allemagne, l'Italie, vivent des collectivités d'êtres humains et, comme les yeux physiques voient seulement la forme extérieure de ces êtres, on considère que ce qu'on appelle l'âme ou l'esprit du peuple n'est qu'une notion abstraite, les rassemblant tous. N'aurait vraiment de réalité que l'individu, et non l'âme ou l'esprit du peuple. Mais pour celui qui peut pénétrer du regard dans la véritable vie spirituelle, ce que nous appelons âme ou esprit du peuple est une réalité. Dans l'âme d'un peuple vit et agit un archange, un esprit du feu qui règle les relations entre l'individu et l'ensemble de ce peuple ou de cette race. Nous en arrivons ensuite aux entités que nous appelons esprit de la personnalité, principauté, force des origines ou archaïe. Ceux-ci sont d'un niveau encore supérieur. Ils ont une tâche plus élevée en rapport avec les humains. Ils règlent en effet, pour tout le genre humain, les conditions terrestres et vivent de telle façon qu'au cours du temps, d'époque en époque, ils se transforment à un moment déterminé en prenant pour ainsi dire un corps spirituel différent. Vous connaissez tous quelque chose qui, pour la mentalité d'aujourd'hui, n'est qu'une simple abstraction, mais qui, pour celui qui peut voir la réalité spirituelle, est justement une réalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'esprit du temps. Or, les esprits du temps ont affaire avec le sens et la mission d'une certaine époque de l'humanité. Pensez par exemple au sens et à la mission des premiers millénaires qui ont suivi immédiatement la catastrophe atlantéenne. Les esprits du temps englobe ce qui dépasse un peuple ou une race particulière. Il ne se limite pas à tel ou tel peuple. Il dépasse les limites des peuples. Or, le véritable esprit du temps, l'esprit d'une époque, c'est en réalité le corps spirituel des archées, des esprits de la personnalité. C'est à eux qu'on doit l'apparition sur notre terre de personnalités déterminées à des époques précises. Vous comprenez, n'est-ce pas, que les tâches terrestres doivent être accomplies par des êtres humains. Il faut qu'à une époque donnée, telle ou telle personnalité vienne sur Terre. Un étrange chaos se produirait dans l'évolution générale de la Terre si tout était abandonné au hasard, si par exemple Luther ou Charlemagne étaient nés à n'importe quelle époque. Il faut que la chose se fasse en fonction de l'évolution humaine sur toute la Terre. Il faut qu'apparaisse à une certaine époque l'âme qui s'accorde avec le sens de toute l'évolution terrestre. C'est cela que règlent les esprits de la personnalité, les archaïes ou principautés. Au-dessus des archaïes se trouve la hiérarchie à laquelle il a déjà été fait allusion dans la dernière conférence, celle des puissances, exousiaï ou esprits de la forme. Ceux-ci ont des missions qui dépassent la Terre. Dans le développement de l'humanité, nous distinguons en effet les phases de Saturne, du Soleil, de la Lune, de la Terre, de Jupiter, de Vénus et de Vulcain. Nous avons vu que tout ce qui se rapporte à la Terre elle-même est réglé par les anges en ce qui concerne l'individu. Par des archanges, s'il s'agit des rapports de cet individu avec les collectivités humaines. et par des esprits de la personnalité pour l'ensemble de l'évolution humaine depuis l'ère lémurienne jusqu'à celle où l'homme sera totalement spiritualisé, qu'il appartiendra à peine à la Terre. Mais il faut de plus que l'humanité soit conduite d'un état planétaire à un autre. Il faut que d'autres entités veillent, pendant toute l'évolution terrestre, à ce qu'à la fin de cette évolution, l'humanité puisse traverser l'état de pralaya de manière juste et trouver sa voie vers son nouveau but, vers Jupiter. C'est le rôle des puissances ou esprits de la forme. Dans la dernière conférence, nous avons caractérisé leur mission en partant de ce qui leur est supérieur. Nous la considérons maintenant du point de vue opposé. Les entités qui veillent à ce que l'humanité tout entière soit conduite d'un état planétaire à l'autre, ce sont les puissances, exousiaï ou esprits de la forme. Il nous faut donc tout d'abord nous faire une idée de la position qu'occupent ces entités dans l'univers. Dans la science spirituelle, dans ce qui doit continuer aujourd'hui par l'anthroposophie, donc au fond d'après la sagesse des mystères, on a toujours parlé de ces différentes entités hiérarchiques comme je viens de le faire. Nous avons vu dans la dernière conférence que le Saturne actuel marque la limite jusqu'à laquelle les trônes ont agi, que Jupiter marque celle à l'intérieur de laquelle ont agi les dominations, et Mars celle à l'intérieur de laquelle ont agi les vertus. Nous allons voir maintenant quelle est, dans notre système solaire, le champ d'action des entités que nous évoquons aujourd'hui. À ce sujet, je vais exposer des notions qui, bien qu'elles concordent parfaitement avec la vérité, pourront paraître surprenantes, même à vous qui êtes déjà préparés à les entendre. On enseigne actuellement dans les écoles que, dans l'Antiquité et jusqu'à Copernic, la conception qu'on avait du système solaire était celle dite de Ptolémée. On croyait alors que la Terre occupe le centre de ce système et que les planètes tournent autour d'elle, comme il semble d'ailleurs à la vision physique. Depuis Copernic, on sait enfin, dit-on, ce que les hommes d'autrefois ignoraient, c'est-à-dire que le Soleil est au centre du système et que les planètes tournent autour de lui en traçant des cercles, éventuellement des ellipses. Or, pour être tout à fait honnête, il faudrait, en décrivant ainsi le système solaire, avoir la franchise de faire remarquer autre chose. Il faudrait dire, jusqu'à Copernic, on ne connaissait que les figures que décrivent les mouvements s'effectuant dans l'espace céleste, d'après lesquelles on calculait quel aspect peut avoir notre système solaire. En fait, Copernic n'est pas allé s'asseoir dans l'espace pour observer si le Soleil occupe un point à l'intérieur d'un cercle ou d'une ellipse et si les planètes tournent autour de lui. Il a fait un calcul qui explique plus simplement ce qu'on voit que d'autres plus anciens. Le système de Copernic n'est pas autre chose qu'un produit de la pensée. Faisons abstraction pour le moment de ce que croyait Ptolémée. Admettons que le Soleil occupe le point central et calculons l'emplacement des diverses planètes. Puis voyons si cela concorde avec l'expérience. C'est en effet le cas, à première vue, pour l'observation purement physique. Il est vrai qu'ensuite, on a bâti là-dessus toutes sortes de systèmes cosmiques, celui de Kant et Laplace par exemple. Mais par suite de nouvelles découvertes, on en est arrivé à quelque chose qui, au fond, n'est plus tout à fait honnête scientifiquement, car deux planètes se sont ajoutées aux autres pour l'observation physique, Uranus et Neptune. Nous n'en avons pas encore parlé, nous verrons par la suite ce qu'elles signifient pour notre système solaire. Or, il aurait fallu faire remarquer, en décrivant ce système, qu'en réalité ces deux planètes, Uranus et Neptune, infirme le résultat des calculs. Si l'on accepte le système cosmique de Kant et Laplace, Uranus et Neptune devraient se mouvoir avec leur lune comme le font les autres planètes et leurs lunes respectives. Or, ils ne le font pas. Et l'une de ces planètes récemment découvertes se comporte d'une façon très curieuse. En ce qui la concerne, et si l'hypothèse de Kant et Laplace était juste, il faudrait admettre que l'axe de tout le système a été dévié de 90 degrés après le détachement des autres planètes, car l'orbite qu'elle parcourt est toute différente. Uranus et Neptune diffèrent de façon notable des autres planètes du système solaire. Nous verrons plus tard ce qu'il en est. Pour l'instant, je vous fais seulement remarquer que, dans le système de Copernic, il s'agit simplement d'un calcul, d'une hypothèse conçue à une époque où l'on perdait toute connaissance des rapports spirituels, où l'on ne savait plus voir ce qui, spirituellement, est à la base de tout phénomène extérieur. Or, le système de Ptolémée n'est pas simplement un système physique. Il est fondé sur l'observation spirituelle. On savait à son époque que les planètes sont des signes indiquant les domaines où règnent certaines entités supérieures. Et il faut dessiner autrement l'ensemble de notre système solaire et planétaire si l'on veut faire apparaître les domaines hiérarchiques. Je vais donc vous le dessiner tel qu'on le concevait dans les mystères de Zoroastre. Nous pourrions tout aussi bien nous inspirer d'autres mystères, mais nous allons prendre celui-là comme exemple pour caractériser notre système solaire par rapport aux entités spirituelles qui y sont actives. Le système de Zoroastre tenait compte d'observations différentes de celles qu'on peut faire actuellement dans le ciel. Vous savez qu'on peut observer une certaine progression du Soleil, réelle ou apparente, à travers les signes du zodiaque au cours de longues périodes. On dit habituellement, et c'est exact, qu'à partir du 8e siècle avant notre ère environ, le Soleil se levait au printemps dans le signe du Bélier. Mais chaque année, ce point vernal se déplace légèrement, de sorte qu'après de très longues périodes, il a passé par tous les degrés du Bélier. Avant que le point vernal soit dans le Bélier, aux environs de 800 ans avant Jésus-Christ, il était dans le Taureau, dont, au cours des 2200 ans environ, il a parcouru tous les degrés. Précédemment encore, le Soleil se levait au printemps dans le signe des Gémeaux. Le point vernal était dans les Gémeaux, 3000 ans environ avant notre ère. Au 4e et 5e millénaire avant Jésus-Christ, ont fleuri les mystères de Zoroastre, qui remontent donc à la plus haute antiquité. Quand on observait les phénomènes au ciel, tous les calculs se faisaient alors par rapport au signe des Gémeaux, de sorte que, dans le zodiaque, il faudrait placer en haut sur le schéma le signe correspondant à la constellation des Gémeaux. Immédiatement au-dessous vient le domaine des trônes, dont la limite est marquée par Saturne. Vient ensuite le domaine des dominations, ou esprit de la sagesse, avec Jupiter à la limite. Et le domaine des vertus, ou esprit du mouvement, limité par Mars. Nous avons vu que là se situe le champ de bataille du combat dans le ciel. Le domaine hiérarchique suivant est celui dont la limite est marquée par le Soleil. Donc, tout comme Mars marque la limite pour la zone d'influence des vertus, le Soleil marque celle qui concerne les puissances ou esprits de la forme. Puis, nous arrivons à la limite marquée par Vénus, le domaine des archées, esprit de la personnalité, s'étend jusque-là. Le domaine suivant est marqué par la planète Mercure. C'est celui où dominent les archanges, esprits du feu. Nous sommes déjà près de la Terre. Nous dessinons la marque de la Lune, puis la Terre. Il faut donc, en partant de la Terre, vous représenter autour d'elle un domaine hiérarchique, allant jusqu'à la Lune, un autre jusqu'à Mercure, un autre jusqu'à Vénus, et un jusqu'au Soleil. Vous devez être étonné de la façon dont j'ai placé les planètes Mercure et Vénus. Vous pensez que je devrais situer Mercure à proximité du Soleil, et Vénus ensuite. Ce ne serait pourtant pas exact, car, par la suite, les astronomes ont interverti les noms de ces deux astres. Dans les anciennes traditions, ce qu'on appelle Mercure aujourd'hui a toujours été appelé Vénus, et inversement. On ne comprend donc pas les anciens écrits ni les anciennes doctrines lorsqu'on attribue ce qu'on y dit de Vénus ou de Mercure aux planètes qui portent ces noms aujourd'hui. Ce qui concerne Mercure se rapporte à la planète Vénus actuelle et inversement, ces appellations ayant été interverties par la suite. Quand on a retourné le système cosmique, quand la Terre a été dépossédée de sa situation centrale dans l'univers, on n'a pas seulement modifié la perspective, mais, par la même occasion, on a interverti Vénus et Mercure. Il vous sera maintenant très facile de mettre notre schéma en rapport avec le système cosmique actuel. Il vous suffit de situer le Soleil au centre. Autour de lui tourne Vénus, plus loin Mercure, ensuite la Terre avec la Lune, puis Mars, Jupiter, Saturne. Il faut vous représenter les mouvements physiques comme la rotation de chacune des planètes autour du Soleil. Mais on peut aussi se représenter que, la Terre étant ici, les autres planètes se sont placées de telle façon qu'elles se trouvent de l'autre côté du Soleil. On pourrait le figurer de la manière suivante. Je dessine notre système physique actuel avec, à l'un des foyers, le Soleil et, tournant autour de lui, Vénus et Mercure, puis la Terre avec sa Lune. Nous avons donc la Terre, Mercure et Vénus, d'après l'ancienne dénomination. Viennent ensuite Mars, la zone des planétoïdes, Jupiter, enfin Saturne. Imaginez maintenant que la Terre se trouve en bas, Mercure et Vénus venant ensuite. Mars soit toujours là-haut, ainsi que Jupiter, etc. Comme les planètes prennent toutes sortes de positions les unes par rapport aux autres, cette situation peut très bien se produire. C'est admissible. Le système physique actuel est ainsi respecté. Mais on a choisi un moment où la Terre, la Lune, Mercure et Vénus se trouvent d'un côté du Soleil et les autres planètes, Mars, Jupiter et Saturne, de l'autre côté. C'est ce que nous avons dessiné, rien de plus. Voici la Terre et sa Lune, Mercure et Vénus. De l'autre côté du Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Il s'agit donc simplement d'un changement de perspective. Ce système particulier est tout à fait concevable, mais seulement quand se produit cette constellation. Or, elle s'est réellement présentée à l'époque où les Gémeaux se trouvaient au-dessus de Saturne. Par la clairvoyance, on pouvait alors très bien observer les différents champs d'action hiérarchiques les uns par rapport aux autres, et voir, par exemple, que la sphère des anges s'étend autour de la Terre jusqu'à la Lune. Si l'on prend pour base non le système physique, mais cette constellation particulière, le cercle des anges s'étend réellement jusqu'à la Lune, celui des archanges jusqu'à Mercure, celui des archailles ou esprits de la personnalité jusqu'à Vénus, celui des puissances, exousiaï ou esprits de la forme, jusqu'au Soleil. Viennent ensuite le cercle des vertus ou dynamis, celui des dominations, enfin celui des trônes. Ainsi, lorsqu'il est question des systèmes de Copernic et de Ptolémée, il faut bien voir que, dans ce dernier, on a gardé la notion de cette constellation d'esprit dans leur domaine, et alors la perspective part de la Terre. Il viendra un temps où ce système sera reconnu de nouveau, car l'homme aura de nouveau connaissance du monde spirituel. Espérons qu'alors les gens seront moins fanatiques qu'on ne l'est aujourd'hui. Nos contemporains prétendent qu'avant Copernic, on ne disait que des bêtises, qu'on se faisait de l'univers une conception puérile. Depuis Copernic, nous serions enfin dans le vrai. D'après eux, toute autre conception est fausse, et dans l'avenir le plus lointain, fût-ce dans des millions d'années, on enseignera toujours celle de Copernic, puisqu'elle est seule vraie. Voilà comment pensent et parlent les hommes d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'homme plus superstitieux que les théoriciens de l'astronomie actuelle, ni fanatisme plus grand que celui qui règne aujourd'hui dans ce domaine. Il faut espérer que les générations futures seront plus tolérantes et qu'elles raisonneront ainsi. À partir des 15e et 16e siècles, l'humanité a perdu la conscience qu'il existe un monde spirituel, que dans ce monde, il n'y a d'autre perspective que dans le nôtre, et que les corps célestes s'y trouvent dans un ordre différent de celui qui apparaît à la seule observation physique. Cela se comprend, diront les hommes de l'avenir. À partir du XVIe siècle, cette façon de voir était juste. Il fallait que pendant un certain temps, les hommes détournent leur regard du monde spirituel. Mais ensuite, ils se sont souvenus de son existence et en sont revenus à la perspective originelle, spirituelle. Les hommes de l'avenir comprendront, espérons-le, que la mythologie astronomique actuelle ait pu exister, et ne considéreront pas notre époque avec le dédain que manifestent les hommes d'aujourd'hui à l'égard de leurs prédécesseurs. Nous voyons donc que si le système de Copernic est différent de celui de Ptolémée, c'est simplement parce qu'il est fondé sur des conceptions physiques. Auparavant, il restait encore certaines conceptions spirituelles dans celui de Ptolémée. Et c'est seulement à l'aide de ce dernier système qu'on peut se faire une idée des actions et réactions des entités spirituelles au sein de notre système solaire. Nous respectons les conditions spirituelles en disant que les anges règnent jusqu'à la Lune, les archanges jusqu'à Mercure, les esprits de la personnalité jusqu'à Vénus, les puissances jusqu'au Soleil, les vertus jusqu'à Mars. Viennent ensuite les entités que nous nommons domination, et enfin les trônes. Il nous suffit de tracer d'autres lignes dans le croquis du système physique, et nous obtenons ainsi les limites des sphères où règnent les hiérarchies. En effet, pour ce qui est des influences spirituelles, ce n'est pas le Soleil, mais la Terre qui se trouve au centre du système. C'est pourquoi, à toutes les époques où l'on considérait l'évolution spirituelle comme la chose essentielle, on disait « Certes, le Soleil est le plus sublime des astres. Là évoluent des entités très supérieures à l'homme, mais ce qui importe dans l'évolution, c'est l'homme qui vit sur la Terre. » Si le Soleil s'est séparé de la Terre, c'est afin que l'être humain puisse se développer comme il doit le faire. Sinon, il n'aurait jamais évolué à la vitesse qu'il fallait. Cela fut possible uniquement parce que le Soleil s'est retiré avec les entités qui supportent des conditions d'existence tout à fait différentes. Il a laissé la Terre à elle-même, pour ainsi dire, afin que l'homme puisse s'engager dans l'évolution selon son allure personnelle. Un système cosmique se présente d'une façon ou d'une autre selon le point dont on part et la perspective qu'on adopte. Si l'on se demande quel est le centre du système solaire par rapport à ce que peuvent voir nos sens physiques, c'est au système de Copernic qu'il faut recourir. Si l'on cherche comment s'ordonnent dans ce système solaire les domaines des hiérarchies spirituelles, il faut placer la Terre au centre. Les planètes sont alors tout autre chose. Elles sont des bornes et indiquent les limites des domaines propres aux différentes hiérarchies spirituelles. Il vous sera maintenant facile de mettre ce qui vient d'être dit sur la répartition de ces domaines dans l'espace en rapport avec la tâche, la mission de chacune des hiérarchies. Les entités qui agissent dans l'entourage immédiat de la Terre, dans l'espace sublunaire, sont les anges. De cette sphère, ils dirigent la vie de chaque individualité qui passe d'une incarnation à l'autre. Mais il faut plus qu'un ange pour répartir des populations entières à la surface du globe, en attribuant sa mission à chaque peuple. Qu'à cela l'espace universel doive contribuer, la simple réflexion le montre. Car il ne dépend pas seulement des conditions terrestres, mais encore de celles qui règnent dans le cosmos, qu'un peuple ait telle ou telle caractéristique. Dites-vous bien qu'une race possédant telle couleur de peau, tel genre de cheveux, agit autrement qu'une autre. Des conditions cosmiques sont ici en jeu. conditions qui dépendent de l'espace céleste, c'est-à-dire d'un domaine qui s'étend jusqu'à Mercure, gouverné par les archanges. Puis, quand l'humanité tout entière, telle qu'elle se développe sur la Terre, doit être dirigée, guidée, cette direction provient d'un espace cosmique encore plus vaste, qui s'étend jusqu'à Vénus. Enfin, quand il s'agit de la mission de la Terre elle-même, la direction doit provenir du centre de tout le système. Je vous ai dit que notre humanité se développe à travers les étapes de Saturne, du Soleil, de la Lune, de la Terre, de Jupiter, de Vénus et de Vulcain. Des entités spirituelles dirigent la mission de l'humanité d'une incarnation planétaire à une autre. Ce sont les puissances ou esprits de la forme. Il faut à ces entités un domaine choisi. Elles sont ainsi faites que leur sphère va jusqu'au Soleil. Le Soleil était déjà un astre particulier du temps de l'ancienne Lune. Il l'est de nouveau pour la Terre et le sera encore pour Jupiter. Son domaine s'étend au-delà des planètes. Son existence doit être liée aux entités dont le domaine dépasse ceux des différentes planètes. C'est ce qui fait du Soleil un astre exceptionnel. Vous voyez donc que la demeure extérieure des hiérarchies ne se trouve pas tant sur les planètes elles-mêmes que dans les sphères dont la limite est déterminée par ces planètes comme par des bornes. C'est ainsi que l'espace qui s'étend de la Terre à la Lune est imprégné par l'activité des anges, l'espace allant de la Terre à Mercure étant le champ d'action des archanges, et ainsi de suite. Il s'agit de sphères spatiales, et les planètes marquent les bornes des activités spatiales d'entités spirituelles. Une ligne continue de perfectionnement s'élève ainsi au-dessus de l'homme. Celui-ci est enchaîné à la Terre, ce qui en lui est éternel et va d'une incarnation à une autre, est dirigé par des entités qui ne sont pas seulement liées à la Terre. Elles sillonnent l'atmosphère et l'espace qui va jusqu'à la Lune, puis au-delà. Or, l'être humain est engagé dans son évolution, sur la Terre, depuis des temps immémoriaux. Et il en est de lui comme du petit enfant dans ses rapports avec l'homme adulte. Celui-ci instruit le petit enfant. Il en est de même des hiérarchies dans l'univers. L'homme, rivé à la Terre, ne peut s'élever que graduellement vers la connaissance, vers les capacités dont il a besoin ici-bas. Les entités spirituelles doivent tout lui enseigner. Qu'a-t-il fallu pour cela ? Il a fallu qu'au début de l'existence terrestre, des êtres qui, sinon, ne seraient pas liés à la Terre, descendent des sphères supérieures. C'est ce qui s'est réellement passé. Des entités qui auraient pu ne vivre que dans l'entourage de la Terre ont dû y descendre pour communiquer aux hommes ce qu'étant à un niveau supérieur au sien, elles avaient déjà appris. Elles ont dû s'incarner dans des corps humains, mais non pas en vue de leur propre évolution. Car elles n'en avaient pas plus besoin que l'homme adulte n'a besoin de réciter l'alphabet, si ce n'est pour l'enseigner aux enfants. C'est ainsi qu'en remontant à l'ère atlantéenne, à l'ère lémurienne, nous trouvons des êtres qui sont descendus de la région entourant la Terre, région à laquelle ils appartiennent, pour devenir les instructeurs de l'homme. Il s'agit d'entités qui font partie des hiérarchies, celles de Mercure et de Vénus. Des fils de Mercure et de Vénus sont ainsi devenus les instructeurs de la jeune humanité, de sorte que dans cette jeune humanité, il se trouvait des êtres qui n'étaient au fond que des apparences, une maya sur la Terre. Il y a vraiment eu de ces êtres humains. Supposons par exemple qu'à l'ère lémurienne, un homme, normalement développé pour son époque, ait rencontré l'un d'entre eux. Extérieurement, il n'aurait pas été très différent du premier, mais en lui serait descendu en quelque sorte un esprit dont le domaine s'étendait jusqu'à Mercure ou Vénus. L'aspect extérieur de cet homme n'aurait donc été qu'une maya, une illusion. tout en ressemblant aux autres hommes, il aurait été tout différent. Un fils de Mercure ou de Vénus. Ce fait s'est réellement produit à l'aube de l'évolution humaine. Les fils de Mercure et de Vénus descendaient sur la Terre et allaient et venaient parmi les hommes, bien que leur nature profonde fût celle des habitants de Mercure et de Vénus. Les entités de Vénus étaient, nous l'avons dit, des esprits de la personnalité. Ceux qui descendaient sur la Terre semblaient n'avoir qu'une personnalité humaine, mais par leur immense pouvoir, ils dirigeaient les hommes. Ainsi s'exerçait le pouvoir pendant l'ère lémurienne. Les fils de Vénus dirigeaient l'humanité tout entière. Quant aux fils de Mercure, ils n'en dirigeaient que certaines parties. Ils étaient aussi puissants que le sont aujourd'hui ceux que nous appelons les esprits des peuples ou des races. La Maya, l'illusion n'existe pas seulement dans le monde en général, mais aussi en ce qui concerne l'être humain. L'homme que nous voyons peut avoir un aspect conforme à ce qu'il est en réalité, à ce qu'est son âme. Ou bien cet aspect peut n'être que Maya. C'est qu'alors sa mission est celle d'un fils de Mercure ou de Vénus. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on dit des grands dirigeants d'autrefois qu'ils étaient Maya. C'est cela qu'a voulu dire H.P. Blavatsky lorsqu'elle a fait remarquer que les Bouddhas sont Maya. Vous trouverez vous-même cette expression dans la doctrine secrète. Ces notions proviennent directement des mystères sacrés. Il faut seulement savoir les comprendre. Il nous faut maintenant nous demander comment il se fait qu'un fils de Vénus puisse descendre sur la Terre, qu'un Bodhisattva puisse vivre sur la Terre. Ce qui concerne la nature d'un Bodhisattva, la nature des fils de Mercure et de Vénus, fait partie d'un chapitre important de l'évolution terrestre dans ses rapports avec le cosmos. Nous en reparlerons dans la prochaine conférence.